France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un ancien eurodéputé écologiste dans le grand entretien du 7-9. Vous pourrez dialoguer avec lui au standard d'Inter 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Bonjour Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour Monsieur Demorand. Bonjour Madame Salamé.
Bonjour Monsieur Cohn-Bendit.
Après 3 mois de mobilisation, les gilets jaunes, Daniel Cohn-Bendit, sont encore dans la rue. D'une semaine sur l'autre, la mobilisation décroît, elle se répartis différemment sur le territoire, mais quoi qu'il en soit, il y a encore beaucoup de monde dans les rues, des dizaines de milliers de personnes qui manifestent et qui veulent continuer à manifester. Alors selon vous, Daniel Cohn-Bendit, et tout simplement, que faire?
Alors d'abord, je veux dire que si nous, bien temps ancien, on était 1500 dans Paris à manifester, mais personne ne parlait de nous. Mais personne.
Vous, les 68ards, vous
les 68ards, les groupes, après, etc. Donc, que faire? Moi, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout du processus qui a lieu, c'est-à-dire un débat où il y a quand même 30% des Français qui participent, ce qui ne s'est jamais vu. Alors, je sais bien qu'on va me dire il y en a 70, mais jamais vu autant de gens qui participent à un débat. Il faut aller jusqu'au bout du processus, retirer les enseignements et après prendre des décisions. Il y aura des conférences régionales, etc. Maintenant, on ne peut pas arrêter au milieu, c'est-à-dire la réponse à la crise que signifie le signifiant de cette crise, ce sont les gilets jaunes. Eh bien, la réponse est dans tout ce qui est dans le débat public en ce moment en France.
On va parler du débat dans un instant, mais début décembre, c'est-à-dire au tout début du mouvement, vous étiez dans ce studio et vous aviez vu dans le mouvement des gilets jaunes, je vous cite, une tentation autoritaire et totalitaire. Est-ce que ça se confirme aujourd'hui et est-ce que vous résumez l'ensemble du mouvement des gilets jaunes à une tentation totalitaire?
Moi, je résume jamais un mouvement à un vecteur. J'ai dit à l'époque, les gilets jaunes, c'est l'expression d'une réelle fracture sociale. Il ne fallait pas être malin pour le dire, d'ailleurs, je n'ai jamais prétendu ça. Mais aujourd'hui, l'expression politique, donc le caractère subjectif de ce mouvement, c'est qu'il y a des véritables tendances très autoritaires. Ce n'est pas simplement l'épiphénomène, si on veut, à la fin, dont on a vu ce qui est arrivé à Finkielkraut. Mais regardez le terrorisme interne dans son mouvement. Quand Madame Moureau, que tout le monde encensait au début avec sa vidéo virale et tout ça, ne peut se promener qu'avec 2 gardes du corps, qu'elle a dû fermer son compte Facebook, etc. Et puis il y en a plein comme ça, jusqu'à ce qui est arrivé à Madame Levavasseur.
Donc, hier, oui.
Hier, vous avez un mouvement, mais qui me rappelle dans cette structure autoritaire les combats des partis maoïstes entre eux, ou même des partis trotskistes entre eux. C'est ça qu'il faut comprendre.
Vous dites l'épiphénomène de ce qui est arrivé hier à Alain Finkielkraut.
Oui, parce que l'autoritarisme, je veux dire, ce qui est arrivé aujourd'hui, quand je dis épiphénomène, c'est-à-dire c'est le dernier phénomène de tout ce qui s'est passé depuis 2 semaines qui date d'autoritarisme. Alors, je veux dire qu'il faut... On peut être fasciné par un mouvement social qui exprime une crise sociale. Mais moi, de toute façon, j'ai appris, et j'espérais que beaucoup de gens aient appris, il faut regarder maintenant, subjectivement, comment cette crise sociale s'exprime. Et c'est là où, dès le début, moi, je me suis dit, attention, on va pas m'obliger de mettre un gilet jaune, on va pas m'obliger à dire ceci et cela, je ne suis pas à genoux, parce que maintenant, des gens debout qui disent des fois n'importe quoi.
Et donc, les gens qui restent et qui manifestent aujourd'hui, ces gilets jaunes-là, c'est quoi? C'est, pour finir, un groupe radicalisé ou qui exprime ce que vous venez de dire, à savoir, d'une certaine manière, l'essence aussi de ce mouvement?
J'en sais rien, moi, de l'essence de ce mouvement. C'est pas à moi, c'est à eux
de le
dire.
Vous dites qu'il y a une pulsion autoritaire.
Il y a une pulsion dans la manière dont ils se comportent.
Ça peut être l'essence de ce mouvement, je vous pose la question.
Oui, c'est l'essence. Ce mouvement est, pour moi, très autoritaire. Ça veut pas dire qu'il ne dit pas autre chose.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, quand on voit d'ailleurs les premières lignes, ce sont toujours que des hommes, qui viennent, la manière, enfin, je veux dire, toutes les critiques qu'on a fait avec raison de toutes les pulsions autoritaires qu'il y avait dans les années 60, 70, etc., toutes ces critiques, eh bien, on a l'air de les oublier. Regardez le mouvement social, il a des pulsions qui sont nauséabondes.
Hier, à cette antenne en question politique, Éric Ciotti a demandé clairement l'interdiction des manifestations. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Non, je ne demanderai jamais l'interdiction de manifestations. C'est un droit constitutionnel. C'est pas parce que c'est compliqué qu'on simplifie en un dans ça. C'est aussi la pensée, disons, autoritaire, étatiste d'un Éric Ciotti. Et ça, jamais vous entendrez de ma bouche de demander l'interdiction d'une manifestation.
Daniel Cohn-Bendit, on a assisté ces dernières semaines à la multiplication de propos, de graffitis antisémites. Est-ce que vous tirez de cette succession d'événements la conclusion qu'il y a en France une résurgence de l'antisémitisme ?
Il y a toujours eu. Il y a toujours eu. En France, comme dans d'autres pays, il y a dans un pays, vous voyez, il y a des tas de sondages, des enquêtes qui ont été faites. Vous avez dans un pays comme la France ou l'Allemagne aujourd'hui ou d'autres, vous avez, disons, 20 à 30% de la population qui ont, comme ça, des pulsions antisémites. Comme il y a 20 ou 30% de la population, c'est pas toujours les mêmes, qui ont des pulsions racistes. Hein, et là, ça s'exprime par certains moments, à d'autres moments. Et tout le problème de civilisationnel, c'est que la grande majorité d'une société s'exprime, ça, on veut pas l'entendre. On va pas, si c'est chez vous, on peut pas aller vous chercher, mais on veut pas d'entendre dans l'espace public. J'en ai rien à cirer de ce que pense Alain Finkielkraut, on est d'accord ou pas. Ce qui s'est passé, on ne veut pas le voir, on ne veut pas l'entendre, et la grande majorité de ceux qui, c'est pas la peine de dire, c'est pas de dire je suis d'accord avec Finkielkraut, ou je suis d'accord avec Cohn-Bendit, ou je suis d'accord avec Bernard-Henri Lévy, ou je suis d'accord avec Monsieur le Juif du Schmock ou machin. On ne veut pas entendre quelque chose qui s'attaque à la judéité, comme on ne veut pas entendre du racisme. C'est simple, non, dans la vie.
Est-ce que vous avez l'impression que cet antisémitisme, c'est la résurgence de ce qui s'était passé, le vieil antisémitisme français, les années 30, etc. Ou est-ce que c'est un antisémitisme qui est en train de muter pour reprendre les termes d'Alain Finkielkraut qu'il disait encore hier, pour lui, il y voit vraiment quelque chose qui est devenu de l'antisémitisme réservé à l'islamisme radical.
Non, il y a un antisémitisme de l'islamisme radical. Il y a toujours un antisémitisme chrétien qui existe toujours. Il y a un fond d'antisémitisme. D'ailleurs, rappelez-vous, et c'est pas l'islamisme radical, quand on attaque Emmanuel Macron, qu'on dit la banque Rothschild, on n'arrête pas de dire la banque Rothschild, eh bien c'est un signal qu'on envoie, il n'y avait pas que les islamistes qu'on dit ça, hein, donc il faut arrêter. Oui, il y a un antisémitisme, antisionisme qui vient de l'islamisme radical, même peut-être pas simplement de l'islamisme radical, je crois qu'il y a dans le monde musulman, pour des raisons compliqué, etc., un véritable antisémitisme. Il y a ceci, dans l'histoire du monde chrétien, et ça existe toujours, on n'a qu'à voir ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui, ou même en Pologne, etc. Donc, il ne faut pas réduire maintenant à cette lutte contre l'antisémitisme à une fraction de l'antisémitisme. C'est quelque chose, malheureusement, de beaucoup plus large.
Est-ce que vous voyez un axe rouge-brun se former à la faveur de ce mouvement, enfin, semaine après semaine?
Je crois qu'il y a un axe de bêtise rouge-brune. Ça, un axe politique, j'en sais rien. La bêtise, que Jean-Luc Mélenchon mette 24 heures pour répondre à ce qui s'est passé. Quand quelqu'un qui s'occupe des médias, qui est quand même là, le média de la France insoumise, hein, disent il l'a bien cherché. Mais ils se rendent pas compte de l'histoire de ce que ça veut dire, il a bien cherché. Les Juifs l'ont toujours cherché. Toujours, quand il y a eu de l'antisémitisme, on a dit ils l'ont cherché. Et c'est pour ça que ça, je ne peux plus l'entendre. Donc, il y a une bêtise rouge-brune. Il y a une bêtise qui, quand, au lieu de dire, mais vraiment de dire, de l'avoir de la compassion pour ça, il y a une agression verbale, une situation, disons, je dis pas, c'est pas un pogrom, mais c'est, on se dit heureusement qu'il y avait les policiers derrière, etc. Je veux dire,
c'est ce que dit Finkielkraut lui-même, d'ailleurs.
C'est à ça qu'il faut dire non. C'est à ça qu'il faut dire non. De qui que ce soit. Et puis après, on continuera à discuter. Moi, Dieu sait que, Alain Finkielkraut et moi, souvent, on a des positions quand même totalement différentes. On a discuté. Mais il faut vraiment, il faut qu'il y ait une barrière de tout le monde. C'est pour ça que la manif demain soir est peut-être la bienvenue.
Vous y serez ?
Non, je serai à Francfort.
Dani Cohn-Bendit, pardon, la libération de la parole, l'échange des idées, le grand débat, c'est très bien, mais il va bientôt y avoir le temps de la décision. Comment voyez-vous une sortie de crise réussie à l'issue du grand débat pour Emmanuel Macron ?
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que, et je comprends quand on fait une émission tous les matins, on a besoin de résultats tout de suite. Moi, je crois que la rupture, j'allais dire peut-être presque épistémologique, de ce qui se passe en ce moment de Macron, c'est que justement, il dit, c'est moi qui décide simplement. Il dit maintenant, il s'est remis en question. Ce qui s'est passé des Gilets jaunes et cette haine et tout ça a remis en question sa manière de gouverner, sa verticalité. Et donc maintenant, il faut aller jusqu'au bout du processus. On ne peut pas et après.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire simplement. Ça, j'en sais rien.
C'est quelque chose, j'imagine,
un référendum.
Qui est réfléchi.
Si vous faites un référendum pour le bien contre le mal, oui, d'accord, vous pouvez faire un référendum.
Mais c'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est pour le bien contre le mal, mais en tout cas, l'idée du référendum, est-ce que vous y êtes favorable ?
Ça dépend sur quoi. Moi, je ne dirais oui ou non à un référendum quand on me dira sur quoi.
Mais justement, quels sont...
Sur un problème institutionnel, si on demande aux Français ce que vous voulez... la proportionnelle, mais alors là je dis combien de proportionnelle ? Moi je suis pour la proportionnelle intégrale avec une barre de 5%. Un pays comme la France est malade du scrutin majoritaire. C'est-à-dire que les partis politiques, la culture politique n'est pas au compromis. C'est à chaque fois que les politiques s'expriment, eh bien ils font comme s'ils ne seront jamais capables de travailler ensemble. Et ça, si ça continue comme ça, n'importe quelle nouvelle majorité, demain, si c'est Yannick Jadot qui est président de la République, si c'est je ne sais qui, ils auront toujours les mêmes problèmes. Aujourd'hui, la France doit commencer à intégrer la culture du compromis politique. Des forces politiques qui ne sont pas identiques doivent travailler ensemble parce qu'il n'y a pas de force majoritaire dans ce pays.
Daniel Cohn-Bendit, dans la perspective des européennes, on connaît les têtes de liste de quasiment tous les partis, sauf le PS et La République En Marche. Pour La République En Marche, dites-nous ce qui se passe, tout simplement. Est-ce que c'est si difficile de trouver la bonne personne pour incarner cette famille de pensée européenne et cette famille politique française ?
C'est difficile pour une raison. D'abord parce que, disons, pour les européennes, et quand je vois les têtes de liste, c'est visiblement difficile, à part les écologistes avec Yannick Jadot, d'avoir une personnalité qui a une histoire européenne, une histoire dans la politique européenne. C'est facile de prendre n'importe qui, monsieur Bardella, monsieur machin truc chouette, madame Aubry, truc, qui n'ont aucune histoire sur l'Europe.
Bah, donc... Ils peuvent se lancer aussi.
Et c'est très bien. Mais ça...
Et construire un avenir donc, qui est aussi légitime que d'avoir une histoire.
Pour une élection européenne, c'est plutôt conseillé d'avoir une histoire. On peut se lancer. Il faut qu'il y ait des gens. Mais on l'a vu quand même. Dans l'histoire des candidatures qui sont pas des candidatures, enfin, il faut quand même intégrer les contradictions de la politique européenne. Mais chaque parti est en marche, qui est quelque chose, un mouvement qui a une certaine ouverture entre les pro-européens, disons du centre droit jusqu'à centre gauche et même ou de gauche des écologistes. Il n'y a pas une personne qui puisse unifier tout cela. Pas une. Et n'attendez pas que je vous dise maintenant que moi je serai candidat. Vous n'aurez pas ce scoop. Il est.
Ah, j'ai déjà parlé. On n'a même pas posé la question. Vous y allez tout seul.
On n'arrête pas de me la poser. Donc moi j'anticipe. Maintenant ça va plus vite.
Il y a scoop à chercher ou pas du tout ? Vous dites vous n'aurez pas ce scoop. C'est-à-dire vous continuez à y réfléchir.
Je ne serai pas non plus au Conseil constitutionnel. N'ayez pas. Non. Ça vous avez compris aussi. Non. Moi je veux dire. Donc.
Enfin,
je milite, moi,
Vu que vous répondez à la question avant même qu'elle vous soit posée, ça veut dire que vous y réfléchissez d'une certaine manière. Si je veux faire de la psychanalyse de bas étage...
Non, la psychanalyse de bas étage, on n'arrête pas de me poser la question.
Ouais.
C'est ça, c'est très simple.
Bah, et manifestement, moi, donc, vous la posez aussi.
Non, je ne me la pose pas. Moi, c'est réglé, c'est fini, mais ce n'est pas ça. Donc, à partir de ce moment où, visiblement, il n'y a pas tellement d'idées, moi, je suis pour qu'il y ait... 2, 3, 4 personnes qui représentent la diversité pro-européenne de ce que peut être En Marche. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Enfin, ils ont même il y a pas mal d'idées qui sont faites. Il y aura pas mal de surprises.
Et vous siégerez où? Ils siégeront où, les députés européens
En Marche? Ils seront dans un groupe libéral centriste refondé, refondé, ça sera pas le groupe libéral tel qu'il est, mais ça sera un groupe refondé avec justement des forces politiques qui viendront de d'autres pays qui élargiront le socle de ce
refondé,
qu'est
avec, vous l'espérez.
Avec un problème, par exemple, il y aura des problèmes pour En Marche. Si on voit l'évolution en Espagne, je vous dis tout ça c'est pas simple hein. Mmh. En Espagne, il est bien possible que après les élections en avril, vous ayez un gouvernement qui est soutenu de dedans ou de l'intérieur par l'extrême droite. Dans ce gouvernement, il y aurait les libéraux Ciudadanos qui sont des alliés potentiels d'En Marche au Parlement européen, qui accepteront le soutien de l'extrême droite. Donc sur toute la politique européenne, c'est très compliqué et ils vont avoir du mal à justifier, ou on va avoir du mal à justifier ce qui se passe en Espagne aujourd'hui. Mmh.
On est en ligne, le dialogue s'ouvre avec les auditeurs de France Inter, avec Denis qui est à Beauvais. Bonjour Denis.
Oui.
Bienvenue.
Bonjour à tous. Voilà, je voulais poser une question à Daniel Cohn-Bendit. Est-ce que le grand débat national, à la veille des élections européennes, où plus aucun des partis politiques n'évoque de projet véritable, alors que les Français sont très éloignés déjà de la politique européenne. Et ça, c'était une opinion. Et une remarque maintenant, il me semble que la meilleure façon de mettre fin au mouvement des Gilets jaunes est de réunir les partenaires sociaux, les syndicaux, afin de mettre en place un véritable Grenelle social avec des réponses fortes du gouvernement. Daniel Cohn-Bendit doit connaître quand même cet événement puisqu'il a participé à 68, et le Grenelle organisé par Pompidou a mis fin justement aux mouvements sociaux. Mais là, il semblerait que le grand débat national n'est qu'un écran de fumée qui va permettre...
Denis, à vous entendre, ça parasite à la fois le débat européen et ça parasite donc à vous entendre également la possible sortie de crise du mouvement des Gilets jaunes. Sur ces deux remarques, Daniel Cohn-Bendit,
je peux vous répondre. D'abord, vous commencez de manière très intéressante, puis après vous dites ça, c'est un écran de fumée. Arrêtez, c'est une réalité. Votre proposition de réunir les partenaires sociaux est une autre proposition. Laurent Berger de la CFDT l'avait faite. Oui, c'est une bonne proposition. Je suis d'accord et je trouve dommage que le gouvernement ne réponde pas, ne trouve pas une autre forme du Grenelle. La différence du Grenelle, quand même, si vous faites référence à 68, c'est qu'à l'époque, la CGT était hégémonique. C'est-à-dire que s'il y avait un accord, il y avait un accord entre Chirac et la CGT, donc Ségui à l'époque, pour arrêter le mouvement, il fallait que ça se termine, alors qu'aujourd'hui, même la CFDT n'est pas hégémonique. Donc c'est beaucoup plus difficile de faire les partenaires sociaux, ça se dit comme ça simplement. Moi je trouve que le débat est une possibilité, le débat, la réintroduction dans la politique des corps intermédiaires est une autre politique.
Vous dites qu'il a changé, vous dites qu'Emmanuel Macron a changé, il a fait son aggiornamento avec la crise des Gilets jaunes. Est-ce qu'il a changé sur ça? Parce que c'était une de ses convictions qu'au fond, il fallait une relation directe entre le président et le peuple, et les corps intermédiaires étaient obsolètes. Est-ce que sur ça, il a changé ou au fond, il le croit toujours? Parce que quand on le voit dans ce grand débat se mettre en scène lui-même, y aller lui-même et parler au peuple lui-même, on n'a pas l'impression...
La question,
c'est est-ce qu'il a changé sur les corps intermédiaires?
D'un échange de texto avec un journaliste qui dit « il y en a marre de Macron, etc. Il faut qu'il arrête de parler ». Je lui dis « allez à tous ces débats en tant que journaliste où il n'y a pas Macron ». Il me dit en riant « oui, mais sans lui, c'est vraiment chiant ». On est dans une contradiction permanente.
Non, mais répondez-moi sur le fond, sur son rapport aux corps intermédiaires. Est-ce qu'il pense toujours que les syndicats sont morts?
Ce qu'il trouve comme corps intermédiaire, pour l'instant, ce sont les maires. Voilà sa première leçon où là, il dit « j'ai sous-estimé », etc. Sur les corps intermédiaires comme les syndicats, il a, je crois, pas encore... fait le chemin que moi je juge nécessaire. Sauf que, je dis une chose à tous ceux qui disent réintroduire les intermédiaires, et par exemple, prenons l'exemple des écologistes qui disent cela. Quand il réintroduit comme corps intermédiaire qui existe la FNSEA, on lui tombe dessus. Alors que la FNSEA, malheureusement, a 60% aux élections, Donc, c'est toujours très difficile, parce qu'on est pour la réintroduction avec des corps intermédiaires, mais pour les bons et pas pour les mauvais.
Alors, puisque vous parlez de l'écologie, vous avez cité Yannick Jadot. Yannick Jadot a regretté ce samedi, je le cite, qu'Emmanuel Macron ait totalement renoncé à l'écologie. Il a tort ?
Il a tort. Moi, je trouve que Yannick Jadot, il faut arrêter de des caricatures. Yannick Jadot dit que si lui, il était président, que les écologistes iraient beaucoup plus loin. Mais quand je vois ce que font les écologistes allemands, qui sont au pouvoir, parce que c'est ça le problème, c'est facile de dire quand on veut faire ceci, cela, cela, etc. Quand ils sont au pouvoir, des fois ils sont au pouvoir avec la droite, des fois ils sont au pouvoir avec la gauche, etc. Eh bien, on s'aperçoit que leur petit pain ressemble au petit pain que font tous, ils sont un peu plus bio, un peu plus cela. C'est difficile parce que l'écologie, et on l'a vu d'ailleurs sur la taxe carbone, l'écologie quand elle avance d'une manière trop rapide, il y a une régression dans la société. C'est pas vrai que les 80 km/h, la révolte contre, ça prouve bien que c'est trop facile de dire non, il essaye de réajuster. Yannick Jadot peut dire,
mais là, il est dogmatique, Yannick Jadot. Il est écologiste, en campagne.
Depuis quand les écologistes ne sont pas dogmatiques?
Non, mais l'écologiste, c'est pas moi. C'est vous qui les connaissez,
hein. De la manière de dire, non, c'est dogmatique de dire, il renonce. C'est pas dogmatique de dire, moi, à la place de Macron, je propose à Macron d'aller plus loin sur le glyphosate, sur ceci. Ça, c'est tout à fait légitime, ce débat. Mais de renoncer, c'est comme l'écran de fumée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on caricature l'adversaire. Demain, s'il y avait des proportionnels en France, franchement, comme en Allemagne, avec une barre de 5%, quelle serait la majorité qui émergerait?
Le Rassemblement National?
Non.
La République en marche
en coalition avec les écologistes. Enfin, soyons sincères et sérieux. Et si demain, il y a cette coalition avec un rapport de force, avec un programme, eh ben, Yannick Jadot s'apercevrait que c'est pas le programme d'Europe Écologie.
Emmanuel Macron a exclu le retour de la taxe carbone, même réaménagée et fléchée. Il a raison?
Non, il a pas raison. Il y a une nécessité, partout le sait, il y a une nécessité pour changer les données, il y a une nécessité de réintégrer une certaine... Comment et dans quel rythme et tout ça, c'est une des questions du grand débat.
Merci Daniel Cohn-Bendit.
Pas de quoi et toujours pas de scoop.
D'avoir été...
Il revient tout seul.
Il revient tout seul, c'est étonnant.
Parce que ça me fait rire, donc j'aime bien ça.
Faut que vous consultiez. Oui, allez-y.
On va toujours pas poser la question.
Sur l'Europe, Pierre, quand les Américains vont se retirer de Syrie. Qui va protéger les Kurdes? S'il y avait une armée européenne, il faudrait prendre la place des Américains pour signifier à Erdogan qu'il ne peut pas massacrer les Kurdes. Voilà, si quelqu'un se demande pourquoi on a besoin de l'Europe, pensez à tous les Kurdes qui risquent de faire massacrer si les Américains partent de Syrie.
Merci Daniel Cohn-Bendit.